watching, continuing CBS News coverage of Attack on America.
Allô, Daniel, salut. Salut, c'est un pote à toi qui vient de loin. Je m'appelle Hamid. C'est un diminutif chez nous de Mohamed. Je suis algérien. J'ai pu arriver en France, j'avais pas de couteau de cuisine avec un manche en plastique. J'avais pas de cutter. Et je suis arrivé ici. Je suis à Aix-en-Provence. Je suis à Aix-en-Provence et je suis complètement pété, je vais te dire. Je suis pété comme le paradoxe. Pété avec du bourbon. Boisson exclusivement américaine. Mais tu sais, depuis que je sais que nous sommes tous américains, j'ai trouvé une vertu à cette boisson. Elle me saoule plus vite. Je ne me reviens moins cher dans les hypermarchés. Alors je t'appelle mon pote, c'est pas pour que tu diffuses mon message, parce qu'il a rien d'intéressant. Je t'appelle parce que je réalise mon rêve, celui de te parler. Mais j'aurais aimé te parler à toi, Daniel, pas à cette machine de répondeur à la con. On va parler de ce qui se passe maintenant aux États-Unis d'Amérique, dans le monde, ce que dit ce président, ce nouveau président. Nous sommes tous américains, paraît-il. Mais écoute, vraiment, ça m'a fait un choc. Tu sais, j'ai été un rabon, j'ai été un bougnoul, j'ai été un bico. Et quand il y avait des fêtes de l'armistice, je devenais un indigène. Parce que, tu sais, quand on célèbre comme ça des trucs, il faut pas parler de rabon. Je devenais un indigène respectable, correct. Et après, je redevenais rabon. Tu vois? Mais là, de savoir que je suis un Américain, tu te rends compte? C'est un choc, dit. Mon père est Américain, alors? Il est mort, il a été tué par la France coloniale, je veux dire, après des tortures. Mes parents aussi, mes oncles, mes cousins, mes neveux. Nous sommes américains, alors. Les 2 millions de victimes irakiennes après l'embargo, ces femmes, ces enfants, ces vieillards qui meurent tous les jours de faim, c'est des Américains. Putain, mais ils doivent être heureux dans leur tombe. Le seul malheureux, c'est Saddam Hussein. Il n'est pas américain, lui. Il est gras, il n'est pas mort. Les Américains ont voulu le tuer, ils n'ont pas pu. Quel malheureux, ce Saddam Hussein. Il est encore vivant. Les Américains, ils sont là, là. Ils sont en train de monter la sauce. Où est-ce qu'ils vont attaquer? Sur qui ils vont tomber? Sur l'Afghanistan? Sur qui? Tu as vu les journaux qui vendent en Amérique, là? La dernière page d'un drapeau américain. Et on conseille à tout le monde de découper la dernière page et de la coller sur les vitres. Eh oui, c'est ça, le fanatisme, ce que j'appelais le fanatisme laïque, le supernationalisme. Tu sais ce que disait Stefan Zweig, Daniel? Il disait, quand les drapeaux sont déployés, toute l'intelligence est dans la trompette. Allez, porte-toi bien, te laisse pas impressionner par les cons, mon vieux. Hein? Allez, je t'embrasse.
Merci pour Stéphane Zweig et merci pour cette petite phrase qui va nous servir vraiment d'exergue à cette heure qu'on va passer ensemble. Quand les drapeaux sont déployés, toute l'intelligence est dans la trompette. Un superbe message aujourd'hui pour commencer cette heure qui ne sera faite que de vos messages, des messages que depuis... Enfin, depuis longtemps, mais là spécialement depuis le 11 septembre dernier, vous laissez sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Il y a de l'émotion, beaucoup, de l'inquiétude, pas mal, mais aussi une prise de distance, mais aussi de la critique qui émerge dans le choc émotionnel qui nous a submergés, qui nous a aveuglés, qui nous a fait perdre pied souvent et perdre le nord avec et dire beaucoup de choses approximatives et excessives. Mais ce genre de choc, visiblement, ne peut pas engendrer autre chose, sinon qu'en même temps, dans le même temps, une quantité d'informations qu'elle nous se pas ou peu habitués, nous ont été fournis des analyses, des regards qui essayent de raconter le monde différemment. S'il y a une chose qui a changé, c'est bien depuis ce mardi 11 novembre, un autre regard, une autre inquiétude sur cette planète, sur notre présent et notre avenir. Et c'est ça qui transparaît, qui vibre et qui vit dans vos messages, ce qu'on va entendre jusqu'à 18h dans la basse Gisfie.
Hello, Daniel Mernet. Je m'appelle Kate. Je suis américaine, née et élevée à Manhattan. Et j'ai bien peur que le monde entier n'a pas fini de payer le prix d'une politique américaine purement matérialiste et d'un cynisme redoutable. Je dirais que c'est le gouvernement américain même qui a signé l'arrêt de mort de tous ces 5 millions de personnes écrasées sous les décombres et brûlées vifs dans des avions le 11 septembre dernier, victimes d'un gouvernement qui a toujours fait preuve d'un cynisme inqualifiable, que ce soit pour soigner ses intérêts pétroliers dans le Moyen-Orient ou ailleurs, ou que ce soit à l'intérieur de son propre pays, où les lobbies rendent impossible la réglementation des armes à feu, dont les horreurs ont été pourtant médiatisées, où des gens en détresse sont refusés aux portes des hôpitaux, faute d'assurance médicale, où un pourcentage ahurissant de la population, notamment des enfants, vit en dessous du seuil de pauvreté. Manifestement, la politique américaine se moque éperdument de la vie humaine, américaine ou autre, et ça depuis belle lurette, et ne fait que servir ses propres intérêts et ceux des riches patrons. Alors, si nous sommes tous des Américains, eh bien, je dirais qu'il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Merci.
Enseignante en retraite. Pendant les années 80, je corrigeais des copies de français pour examen de concours interne au ministère de la Défense. Je me souviens d'un texte de Camus sur lequel les élèves devaient réfléchir. Camus disait son amertume et son dégoût devant la liesse des New-Yorkais qui dansaient après le lancement de la première bombe atomique sur Hiroshima, alors que des milliers et des milliers de victimes se mouraient de leur brûlure. C'est tout.
Salut Daniel. Je ne résiste pas au désir de te parler, parce qu'il y a des mots qui me corchent les oreilles depuis un moment. J'entends parler de guerre sainte, de guerre du bien contre le mal, et les deux au nom du même Dieu. Je ne suis pas un spécialiste en religion, je ne veux pas faire de morale, mais ça me semble bien simpliste. Parce que le mal, c'est toujours les autres. Peut-être faudrait-il chercher ce qu'on peut améliorer chez nous, pour éviter ainsi que le mal gagne chez nous. Je veux pas, moi, d'un monde divisé en bon et en méchant. Je me sens responsable de tout le mal comme de tout le bien qu'il y a dans le monde, et d'abord dans mon propre pays. Et puis, de temps en temps, il faudrait se rappeler qu'il y a un autre mot, pardon.
Salut Daniel, David de Dijon. Les États-Unis se sont promis de châtier tous les pays ayant apporté leur aide à Oussama Ben Laden. J'attends donc avec impatience les frappes chirurgicales sur la Suisse, le Luxembourg et autres paradis fiscaux. Mais je crois pouvoir attendre longtemps vu que le meilleur bouclier antimissile reste le pognon.
Je voulais simplement donner mon opinion, ma pensée sur ce qui vient de se passer au travers de mes petites lunettes. Bush et Ben Laden ont la conviction d'agir pour le bien selon leurs idéologies. Pourtant, le Dieu qui vit en chacun de nous, ne nous enseigne-t-il pas l'amour, la tolérance et le respect de l'autre? À bientôt, merci.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Flight number 2, arriving from Houston.
Bonjour à Daniel Mermet, je voulais saluer la mémoire de M. Massoud, que nous avons bien connu, ma femme et moi, à Peshawar, en 77 et 78. Il suivait les cours de français à l'Alliance française que je dirigeais. Et nous avons beaucoup apprécié la personnalité de M. Massoud, son amour de la langue française. Il avait 25 ans à l'époque, mais les trois rides verticales au front existaient déjà, et aussi son sourire légendaire. Quel dommage d'avoir perdu un tel homme.
Non, j'ai applaudi, moi, oui. J'ai applaudi quand les Américains ont débarqué en 1944, mais attention, Stalingrad était repris, les Russes avançaient à Berlin. Ça dit beaucoup de choses, ça. Ils avaient peur de pas être les premiers. Est-ce que c'est terrible de dire ça, mais pourtant c'est ainsi. J'ai bien sûr beaucoup de compassion pour le peuple américain, mais est-ce qu'on a sonné le glas à Paris pour les Noirs massacrés en Afrique? Madame Bachara nous dit que c'est un pays de liberté. Je veux bien le croire. La statue est devant Manhattan, mais des condamnés à mort, mal jugés, dont certains ont été déjà exécutés.
Je pense que la monarchie est tombée, le communisme est tombé, et le capitalisme va tomber avec son cortège de victimes, bien entendu. Mais espérons que nous aurons une autre civilisation derrière qui sera bien meilleure que celle-ci. Voilà.
Bonjour, Daniel Mermet, bravo pour votre émission. Mario de Nice. Je voulais dire que je ne félicite pas les terroristes parce qu'ils se sont encore trompés de cible. C'est pas sur les tours qu'il fallait taper, là où les millions de gens qui travaillent tous les jours, qui stressaient au service des capitalistes. C'est à Monaco, sur les yachts, ou alors au Cap d'Antibes ou au Cap Ferrat, dans les superbes villas des archi-milliardaires. C'est là qu'il fallait qu'ils tapent les terroristes. Parce qu'ils se gavent, ils baffrent, ils bouffent, ils sont pleins de cholestérol et de Viagra. Et pendant ce temps, nous on trime, les esclaves ils travaillent, voilà la mauvaise cible. Voilà, j'espère que j'ai beaucoup d'émotions, mais que voulez-vous, c'est la colère que j'ai. Allez.
Oui, oui, votre histoire de pas diffuser à l'antenne, moi c'est pour le diffuser à Madame Cotta, j'ai retrouvé son nom. Et je m'appelle Jacques, c'est une lettre que je lui envoie, alors si j'ai pas de nouvelles d'elle ou de vous, enfin, je l'envoie par lettre, mais j'avais oublié son nom. C'est à la direction, c'est pas pour faire du cinéma à l'antenne ou de l'audience. Hein. Alors, c'est compte tenu des émissions depuis 3 jours que j'entends de Monsieur Daniel Vernet. J'ai déjà téléphoné avant-hier. Alors, je viens d'en dire quelques-uns, mais j'ai horreur des répondeurs. J'aime beaucoup le dialogue, moi. Alors, si quelqu'un peut transmettre à Madame Cotta la bande, ça sera très bien, mais de toute façon, il y a une lettre qui va partir dans quelques jours. J'attends qu'elle soit tapée à la machine, parce que à ce point-là, il n'y a pas de mots pour qualifier ce que j'ai entendu, à moins d'être terroriste. Alors là, c'est très bien, si on en est un, mais compte tenu de ce qu'on a dit sur les Américains, dans une époque pareille, dans un monde, en ce moment où le monde va changer, faut vraiment que M. Daniel Vernet, pour passer ça, et ses supérieurs, soient très jeunes. Je les excuse par la jeunesse. Mais qu'ils pensent aux 10 000 croix, qu'ils aillent en Normandie faire un petit reportage, ça serait très très bien. M. Vernet, il devrait y aller. Allez, on en reparlera plus tard, mais on en parlera encore très longtemps si j'ai pas de réponse. D'ailleurs, je vous dis, j'ai une lettre qui... Il y aura une copie au ministère de l'Information et des anciens combattants, dont je fais partie.
Liberté des pas mûrs sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Vous venez d'avoir un échantillon. On va passer une heure comme ça avec ces messages. Il y a un habitant d'un tout petit patelin, Shanksville, en Pennsylvanie, qui a déclaré ceci au journal Le Monde. En fait, nous étions comme la plupart de nos compatriotes, les malheurs du monde nous semblaient virtuels, on ne les voyait qu'à la télévision. Fin de citation. Et voilà en effet que, soudain, le malheur virtuel du monde est sorti de l'écran de télé comme un gag truqué, comme dans les dessins animés, et a fait irruption en vrai, dans le salon, dans le bureau, dans la vie, dans la mort, en pleine gueule, en plein cœur, en plein corps. Mais aussitôt Mais aussitôt, après cette brève irruption, après cette courte incursion du réel, vite, le réel a été revirtualisé, image en boucle, propos délirants, et vite, il est rentré dans sa boîte, derrière son écran, l'écran de la société écran, devant lequel, depuis des jours, nous restons collés, comme si c'était de là que pouvait venir la moindre idée. Mais un instant, nous n'oublierons pas que nous avons vu de nos yeux vus ce qu'il y a derrière les images. L'homme est cet animal qui croit toujours qu'il y a quelque chose derrière les images. Et là, nous avons vu les coulisses, le décor, et on n'en est pas revenu, pas encore tout à fait revenu, car il y a un mais, à cause de cette surenchère, de cette nausée médiatique, un autre refoulé, un autre réseau dormant s'est réveillé, qui prend la mort aux dents et pose des questions, et veut comprendre, et veut apprendre, et veut de l'info. Le choc ouvre les consciences, la rupture montre la substance, comme disait l'autre. Les médias ne sont que les médias, les journalistes ne sont que des journalistes, et vous êtes en train de le comprendre. Vous êtes en train de comprendre qu'il faut comprendre. Vous êtes en train de comprendre qu'il faut apprendre. Toute la question est de savoir combien de temps ça va durer. Mais nous vivons une époque tragique, terrible, mais formidable aussi, à cause de ces informations qui arrivent de tous les côtés, et que vous attendez, que vous souhaitez, on le sait, on voit les conversations, on sait bien tous les conversations que nous avons. Et tout ça, eh bien, c'est présent dans cette heure que nous allons vivre ensemble, dans le répondeur, sur le répondeur, comme on voudra, de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, jusqu'à 18h, c'est vous qui causez dans le poste.
The President declares... This was an act of war.
The United States of America will use all our resources to conquer this enemy.
But who is the enemy?
Bonjour, Jean-François de Limoges. Je me permets d'appeler parce que l'émission d'aujourd'hui était très très intéressante. Ce qui serait plutôt passionnant, c'est d'avoir un débat contradictoire dans votre émission, qu'on puisse tenter d'apporter un petit peu la contradiction aux deux interlocuteurs d'aujourd'hui qui avaient l'air extrêmement compétents. Et puis, merci encore d'être différents. Salut.
Croupissent ces machines de guerre, des tonnes et des tonnes de fer, entreposées prêtes à rugir, prêtes à rougir la terre, qu'on génère contre con. Génère une rime en on. Prévert nous l'a pourtant bien dit. Quelle connerie, la guerre. Sournoiserie nucléaire, sous-marin de poche revolver, bonbon napalm, goût chimique, panoplie de sapeurs panique. On n'arrête pas l'imaginaire pour se faire sauter la cafetière. 100 fois de quoi s'envoyer en l'air, de quoi descendre le soleil, de quoi éteindre le ciel.
J'avais une petite proposition, puisque les gens qui n'aiment ni le capitalisme ni l'islamisme sont apparemment des pestiférés. Je propose que pour faire un joli retour aux sources, nous commencions à porter une étoile verte, ce qui permettrait de nous reconnaître plus facilement pour les prochaines rafles.
C'est moi le plus fort nananer. Quel pâté on vous a mis. Des tonnes et des tonnes de fer dans la chair ennemie. Mais tapez la chair confrère, vous n'étiez pas mal non plus. Cette fois c'est la der des der, avant la prochaine bien entendu. Les huiles ainsi s'en vont signant des traités aux petits oignons. Après avoir saigné à blanc, se partage terre et pognon. Trace des frontières bidon. Thank you.
noble. Il n'y a aucune réserve, sans aucune réserve, j'apporte mon total soutien aux Américains, mais je voudrais tout de même rappeler deux événements graves qui viennent de notre grand frère, ce grand sale gosse. C'était un jour de 1945, à 8h15 du matin à Hiroshima, 230 000 morts comptabilisés. C'était à Nagasaki quelques jours plus tard, sauf erreur, c'était le 9 août 45 à 11h, 140 000 morts comptabilisés. Ce n'étaient ni des islamistes, ni des terroristes, ils n'avaient pas de cutter, ils n'avaient pas de couteau. C'était l'Amérique, le pays le plus civilisé du monde. J'oublie un détail, la première bombe s'appelait Little Boy, petit garçon. J'espère que l'Amérique ne donnera pas un petit frère à ce petit garçon-là.
Secret de nos piteux états, l'argent est roi et marche au pas. Tambour à souffle, frais tirelire. Une, deux et trois. À quatre, on tire dans le tas.
Oui, bonjour. Alors, si j'ai bien compris, les intérêts du pétrole, cette matière indispensable à la croissance, ont forcé l'aveuglement des services secrets américains et ont poussé des entreprises capitalistes à négocier avec des groupes qui soutiennent le terrorisme. Le pétrole et l'obligation de la croissance seraient donc en partie responsables des attentats. Et pourtant, dans les journaux de France Inter, on nous dit qu'il faut ne pas se laisser abattre, qu'il faut continuer à consommer pour ne pas subir de récession. Voici l'ordre général. Soyez patriotes du monde libre, consommez.
Des machines de guerre dans les hangars de la mémoire. Basta, cessons de croiser le fer. Plus de boucherie, plus d'abattoir. Maintenant on va baisser le store. Laissez la connerie au vestiaire. Y'a plus d'amateurs pour ce sport. Plus personne sous les bannières. Pourquoi pas la belle utopie? Faites un bilan professionnel, une reconversion réussie. Faites-vous la paire, faites-vous la belle. Engagez-vous dans le parti qui déclare la guerre à la guerre. Sortez-vous le nez du kaki.
Il y a des tonnes
de choses à faire avec votre matos et votre génie pour remettre en état la terre. Rangez tous vos affreux joujoux.
Faites tourner le calumet.
Et foutez-nous la paix.
Oui, je voulais dire que pendant cet événement, France Inter a eu un comportement très digne. Mais là-bas, si j'y suis, non. On voit bien à travers ses propos qu'il regrette d'avoir été écarté quelques jours de l'antenne. C'est indigne de sa part.
Voilà. Bonjour Daniel Mermet. Je vous téléphone pour vous remercier de nous laisser nous parler. Nous, les gens qui sommes pas d'accord, parfois les uns avec les autres. Maintenant, je voudrais revenir à ce que je viens de vivre, moi, depuis une semaine. Quand j'ai vu les images, ou quand je vous ai entendu à France Inter, les journalistes nous annoncer ce qui se passait à New York en sortant du collège où je travaille à 17h, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour les gens qui étaient en train de mourir sous les décombres. Ça m'a fait mal pour ceux qui avaient été dans les avions et qui avaient subi ce qu'ils ont subi. Et ça m'a même fait mal pour ces hommes qui avaient accepté d'être tueurs et de se suicider. Et puis, après, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour moi, pour le monde entier. J'ai eu peur pour ceux qui se prennent pour l'Occident, vous savez, synonyme de liberté, de justice, etc. Et qui décident, ou qui décideront, ou qui risquent de décider à leur tour de tuer encore des gens. Des gens dont les souffrances sont indicibles déjà, et qu'on n'a jamais écouté, ou qu'on écoute mal, ou qu'on n'entend pas, et qui mènent peut-être justement à cela, à cette sorte de folie. Un des psychanalystes pourra peut-être essayer de nous expliquer d'ailleurs. Et puis hier, j'ai entendu des gens chanter à l'ouverture de Wall Street, alors là, ça a été très dur. C'est une horrible déception, c'est une honte. J'ai éteint la radio 2 secondes et puis j'ai rallumé parce qu'il fallait bien que j'entende ça. Que j'entende leur culte de l'argent, leur sacro-sainte puissance. Et puis ce soir, Claire Servagen parle de leur besoin d'acheter des armes. Alors, j'en veux pas, moi, au club américain.
Bonjour, voilà, j'ai 17 ans. Et je voulais m'exprimer à propos de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et je voulais dire à quel point j'avais été choquée de voir les gens se réjouir d'une telle horreur. Les gens sont contents de ce qui s'est passé, du sort des Américains, qui sont innocents. Et ils disent qu'ils l'ont bien mérité. Et moi, je trouve que c'est horrible de voir que y a des gens qui sont comme ça. Et il faut vraiment être vraiment, vraiment peu humain pour dire des choses pareilles. Et là, franchement, on se rend compte que les gens sont vraiment méchants. C'est horrible de voir ça. Et j'étais aussi très troublée et vraiment atterrée de voir l'indifférence des gens qui étaient dans ma classe, bon, puisque je suis encore au lycée. Les élèves de ma classe ne sont vraiment pas concernés, ils font des blagues et c'est vraiment horrible. Je reste sans mots et je suis outrée. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Au revoir.
Ben Laden, mort ou vif? Pourquoi l'élever au rang de martyr, de symbole, de héros? Quand on tue un homme, on ne tue pas ses idées. Ses idées lui survivront. Il y aura des milliers et des milliers d'autres Ben Laden. Pourquoi ne pas combattre des idées par d'autres idées? Voilà mon message. Je suis vietnamien d'origine. Mes grands-parents, mes parents et moi-même avons vécu la guerre, l'ancienne guerre.
Salut à tous, salut Daniel, Thierry, Berger à l'appareil. J'étais en train de finir ma vaisselle. Je vais aller garder les brebis. Et puis je pensais à un truc, c'est que en entendant Bush, en entendant les quelques mots-là hystériques, ben, je pensais que le mec qui avait inventé Dieu, ben, ce jour-là, il aurait mieux fait de se casser une patte, quoi. Et voilà, bon courage à tous.
Voilà, de tout, sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, enfin, de tout, mais quand même, du perspicace, du péremptoire, des réactions qui sont les vôtres, des choses malignes, fines, enfin, c'est vous qui appréciez, c'est vous qui parlez, comme disait autrefois Olivier Nantos, c'est plus vous qui écoutez la radio, c'est la radio qui vous écoute.
Salut Mermé, Cédric de Montreuil. Je téléphone parce que j'ai une remarque qui j'espère sera pas redondante avec ce qui a pu être dit dans l'émission de lundi. J'ai raté l'émission de lundi. Figurez-vous que j'imaginais pas qu'on lâche un dangereux activiste aussi rapidement à l'antenne en une période si troublée. Votre émission d'aujourd'hui était assez rafraîchissante. On se dit qu'il n'y a peut-être pas une majorité d'imbéciles belliqueux capable de gober toute. Je sais pas. Depuis 2-3 jours, j'ai vraiment l'impression. Enfin, je commence à me demander si c'est pas de la propagande ce qu'on entend, même en France, même sur France Inter. C'est assez étonnant. Voilà.
Voilà, je suis une dame déjà âgée. Je suis Marie-Paul. J'habite en Normandie depuis 30 ans. Et ce n'est pas pour cela que je me sens américaine. Ça, vraiment, je suis comme beaucoup d'auditeurs. Je me réfute à cette observation. Nous sommes français, d'abord, avant d'être américains. Et j'ai autre chose à dire. Je remercie Daniel Mermet, à l'heure actuelle, en ce moment, aujourd'hui, de nous parler de ce général afghan. Car l'Afghanistan, le Pakistan, tous ces États du Moyen Extrême-Orient, personne dans nos écoles, on ne les connaît même pas, on mélange tout, mais même les adultes mélangent tout. Alors qu'il nous en parle de ces pauvres gens qui subissent tous les jours des bombardements, c'est inouï. Et je pense à Simone de Beauvoir lorsqu'elle disait « Si Dieu existe, il ne fait plus le poids ». Mon Dieu, quelle parole!
Oui, bonjour, Jean-Philippe à l'appareil. Je vous téléphone au sujet du Coran.
J'ai cherché à m'informer à propos du Coran et pas moyen, on trouve plus de doux de Coran dans les bibliothèques. Tout est pris d'assaut. Il y a eu une émission qui est passée sur une autre chaîne de radio. Ils expliquaient ce qu'était que le Coran et on voudrait plus d'informations là-dessus parce que le Coran, on sait que c'est une religion totalement tolérante comme la Bible. Alors, il faudrait que vous nous fassiez quelques émissions à l'antenne de telle sorte qu'on puisse avoir des renseignements complémentaires. Voilà, d'avance, merci, à bientôt, merci à tous.
Bonjour, à propos de l'émission passée mercredi 19 septembre sur le Bon Docteur, je conseille aux personnes qui le veulent de lire le livre « La mort est mon métier » de Robert Merle. Il est très instructif sur comment les nazis pouvaient vivre ce qu'ils pensaient être leur devoir. Voilà, Robert Merle, « La mort est mon métier ». Ben, c'est Richard à Fontaine de Vaucluse. Au revoir.
Ouais, Daniel Mermet, j'aime bien ce que tu fais, mais là, franchement, tu déconnes. Nous faire le bon docteur Munch d'Auschwitz après tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a entendu la semaine dernière, il y a peut-être une petite erreur de programmation, hein, parce que là, parti comme on est, demain, on se fait les soins palliatifs et vendredi, bienvenue à la morgue et lundi prochain, SOS suicide. Allez, fais gaffe.
Oui, bonjour Monsieur Mermet. Je me demandais si, après avoir écouté votre émission, vous n'étiez pas encore en train de chasser des fantômes à une époque où on aurait besoin de chasser des criminels actuels. Je pense notamment à la Corée du Nord où il y a des millions de personnes qui meurent de faim, au Nigeria où on vient de décréter l'État islamiste et où il y a 1000 personnes qui ont perdu de leur vie. Je pense que, vous imaginez un journaliste de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale qui aurait fustiger les massacres de la Révolution française, on lui aurait dit qu'il fallait peut-être s'occuper des massacres de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'il faut être à notre époque, Monsieur Mermet, chassez plus les fantômes, chassons vraiment ceux qui sont actuellement en train de faire du mal, là on fera du travail. Hein? Donc ça serait intéressant.
Deux petites observations à ses amis auditeurs concernant l'actualité, la Corée du Nord par exemple, et bien nous avons fait des reportages en Chine à la frontière avec la Corée du Nord sur les clandestins de Corée du Nord qui fuient, qui essayent de fuir et de survivre dans la partie coréenne de la Chine. Je ne crois pas qu'on peut nous reprocher d'être trop enfermés dans le passé et surtout face à un fantôme qui n'est pas du tout un fantôme, qui est Hans Munch, qui est tout à fait vivant en 98. Si vous vous souvenez, nous avions consacré une série d'émission suite à un entretien, long entretien avec ce médecin qui était le dernier médecin d'Auschwitz, médecin nazi bien évidemment, un ami de Mengele. Et à la suite de ces entretiens, un certain nombre d'associations comme le MRAP ou d'anciens déportés ou victimes du nazisme se sont portés dans la LICRA, etc., se sont portés partie civile pour intenter à Hans Munch un procès pour les propos qu'il avait tenus au cours de ces entretiens. Hier, nous sommes allés témoigner avec Guy Van Til, et suite à une expertise qui a été faite et qui tendait à montrer, indiquer que Hans Munch n'était pas pleine possession de ses moyens mentaux, était atteint d'un Alzheimer, ce qui nous semble à nous faux. En ce qui concerne l'époque où nous l'avons rencontré en 98, il jouissait parfaitement de sa santé mentale. On aura un jugement le 17 octobre et on ne manquera pas de vous tenir au courant. Je ne pense pas du tout qu'il s'agisse de fantômes puisque Munch, au cours de cet entretien, non seulement a tenu un certain nombre de propos et d'idées à travers ces mots qui sont vraiment extraits d'un bloc pur de nazisme, mais surtout, il a fait preuve d'un manque, d'une absence totale de regret, et surtout il est rentré exactement dans une observation fondamentale qu'a fait Primo Levi, où Primo Levi parle d'un capot à qui quelqu'un demande pourquoi Et ce type répond « Hier ist kein warum ». Ici, il n'y a pas de pourquoi. Eh bien, nous continuons de demander pourquoi. Nous continuons de demander pourquoi en Corée du Nord. Nous continuons à demander pourquoi au Nigeria. Et nous continuons à demander pourquoi à Monsieur Munch.
Une chanson pour faire la cour à une femme et pour la blâmer en même temps.
يعني بتقول لها الحبيب راقب الله.
Il lui demande d'avoir peur de Dieu, d'avoir crainte de Dieu.
ويذكرها يعني يا الله ليلات اللقاء تذكري ايام اللقاء.
Essaye de te souvenir des jours où on se rencontrait. Des nuits où on se rencontrait.
ليلة السعد ما فيها شقاء يعني ليلة ما التقوا كان ليلة سعد يعني ليلة فرح.
La nuit où ils se sont rencontrés, c'était une nuit de joie.
والمسرات ما كانت تفارقهم.
Et la joie ne les quittait plus jamais.
هذه الأغنية.
Voilà les paroles.
والأغنية هذه تعود إلى 700 سنة.
Cette chanson a été composée il y a 700 ans.
700 سنة. للمغني الشاعر طبعا سناء المالك.
Et le poète s'appelle Ibn Sana al-Malik. C'était un poète de l'époque Omeyyade.
Un jour, chacun pourra investir dans n'importe quelle société au monde. Négocier sans frontières, avec une facilité, une rapidité et une maîtrise des coûts à peine imaginables aujourd'hui. Il existe un endroit où la technologie se dessine déjà. Un marché prêt à ouvrir aux investisseurs du monde entier l'accès aux ressources infinies d'Internet. Nasdaq, vers de nouveaux horizons.
Voilà, avant cette pub, un rappel d'un moment que nous avions passé à Sanaa, au Yémen, avec ce magnifique musicien et poète, avec cette traduction. Pourquoi le Yémen? Pourquoi un chant en arabe et de la poésie arabe? Parce qu'une légende, une sale rumeur court à la maison de la radio, selon laquelle nous n'aurions pas le droit de programmer de la musique arabe. C'est absolument faux. C'est l'exemple type de la rumeur qui peut s'installer. Mais le monde daté d'aujourd'hui indique comment une compagnie texane de radio qui s'appelle Channel Communication, qui est propriétaire de 1170 stations de radio aux États-Unis, a fait une liste des chansons et des musiques qu'il ne faut pas passer actuellement. Là, il y a certains titres on peut vaguement comprendre, mais d'autres comme Ticket to Ride, par exemple des Beatles, ou Bridge Over Troubled Water, ou What a Wonderful World de Louis Armstrong, on se demande vraiment ce que ça vient faire. Et ça, le papier de Véronique Mortaigne là dans le Monde rappelle comment en 1991, lors de la guerre du Golfe, il y avait une sorte d'autocensure qui s'était installée dans notre bel hexagone, et un certain nombre de titres et de chanteurs avaient été de cette façon mis à l'index, comme Cheb Mami, et des titres avaient été déconseillés, tels Le Déserteur de Brice Vian, ou bien Quand mon cœur fait boum de Charles Trenet, je crois que le titre c'est Quand notre cœur fait boum, enfin voilà, ou Allah de Véronique Sanson. C'est à travers, elle a raison, Véronique Mortagne, d'attirer l'attention, parce que c'est sur des choses qui ont l'air, évidemment, frivoles, secondaires, comme la chanson, enfin, vous savez, ces choses qu'on met à la radio en attendant l'essentiel, c'est-à-dire les informations. C'est bien souvent par là que passe l'essentiel et ce qu'on pourrait appeler... une idéologie dominante, tout simplement. On continue avec avec les messages que vous avez laissés sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
You're watching continuing CBS News coverage of Attack on America.
Bonjour, c'est Michel de Champigny-sur-Marne. Je voulais dire que je suis frappée par l'émotion de chacune des personnes qui téléphonent à votre répondeur pour dire combien votre émission est importante et combien, en fait, chacun, en entendant ce qu'on entend, se dit « mais finalement, je suis pas seule à penser ça, je suis pas fou, voyez ?» Et donc je me disais, je sais pas comment, parce que en fait j'imagine bien que l'idée du répondeur c'est au fait la réaction instinctive et émotionnelle de la personne, mais en fait c'est une vérité profonde. Et je me disais pourquoi est-ce que il n'y a pas un moyen de, parce que moi j'aimerais bien pouvoir parler aux gens qui ont eu la même émotion que moi, voyez, parce que je me dis que quelque part peut-être si ce petit nombre d'entre nous, on pouvait se mettre un peu ensemble, peut-être ça ferait quelque chose. Parce qu'on est... voilà. Je sais pas comment dire autrement, mais je sais pas comment dire autrement.
Ici Louis, journaliste, dans le nord de l'Hérault. Si le 11 septembre reste gravé dans ma mémoire émotionnelle, c'est d'abord en raison de ce jour du 11 septembre 1973 où Allende a péri face à Pinochet grâce au concours de Henry Kissinger, le prix Nobel de la paix donné aux assassins, chante Tachan. Merci d'avoir rappelé les morts du Vietnam, les civils victimes de l'embargo en Irak, le quart monde à nos portes, l'Afrique et l'Amérique latine défigurées par le monde occidental. Merci de donner aujourd'hui la parole à Christophe de Pamphilly, qu'on a si peu entendu depuis une semaine, sauf une incursion trop courte dans un flash d'info sur France Musique. Oui, ce qui s'est passé aux USA est horrible, mais une des victoires de ce terrorisme non aveugle, quoi qu'on dise, est d'avoir ô combien compris comment utiliser le système médiatique international et combien Bush était justement capable de tomber dans ce piège médiatique par des réactions de cow-boy primaire. Merci encore, Daniel, de nous aider à raison garder, car c'est ce dont nous allons avoir le plus besoin dans les jours et les mois qui viennent.
Voilà, moi je voulais exprimer une opinion, c'est pour dire que moi-même et ma femme, nous sommes français convertis à l'islam, et on est assez choqués parce que au travail, par exemple, on se fait traiter de sale bougnoule, alors que, bon, déjà, on n'est pas arabe. Voilà, donc il y a tout un racisme ambiant. Et nous, ce qu'on voulait dire, c'est que on pensait quand même qu'en France, il y avait une tradition de tolérance, peut-être d'un peu plus d'intelligence aussi de la part des journalistes qui présentent les informations, et qu'on regrette vraiment énormément qu'il n'y ait pas d'explication, qu'on n'invite pas, par exemple, un musulman modéré dans un journal, qui est pas un débat avec quelqu'un qui exprime ce que c'est l'islam. On entend n'importe quoi sur des termes, des gens qui apparemment ne font même pas l'effort de prendre un dictionnaire pour lire la définition d'un mot. Ça serait quelque chose comme ça à côté, ça serait peut-être pas très grave, ça ferait partie du racisme auquel on assiste depuis de nombreuses années dans ce pays. Mais quand c'est des gens qui présentent le journal de 20h ou des informations à la radio, moi je trouve ça catastrophique pour la France et je pense que c'est... C'est assez grave pour ce qui va venir, et en tout cas ça laissera des traces, parce qu'on voit des gens remplis de haine sur les milieux de travail. Alors d'un côté on nous fait pleurer avec la dizaine de Palestiniens qui ont manifesté devant une caméra, que l'Express d'ailleurs qualifiait de foule, je sais plus, de multitude, alors qu'il n'y avait que 10 personnes. Et d'un autre côté, les gens donc qui prétendent être choqués par ces attentats, etc., sont les mêmes qui vont traiter des gens de sales bougnoules. Voilà, bah nous on voulait donner notre soutien aux musulmans de toute la France et des autres pays également, ceux qui nous entendront, parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Et j'espère que ces quelques phrases qui feront un peu réfléchir les gens, et en espérant qu'on ne reparte pas comme en 14-18 avec la fleur au fusil.
Voilà, pauvre Mermet, tout est orienté sur la gauche. Moi, je n'ai rien contre la gauche quand elle est honnête. Mais si ce monsieur a des relents de jalousie par rapport à tous ceux qui demandent, qui ont, je veux dire, par rapport à l'Amérique ou par rapport à ceux qui ont un peu, je dis bien, hein, eh bien, c'est dommage parce que c'est très orienté et on ne passe que les messages qui sont en faveur de beaucoup de gens qui sont pas très recommandables. Je le regrette et infiniment.
Désolée, mais l'obscénité, ce n'est pas ce que l'on a entendu lundi à la base j'y suis. L'obscénité, c'est notre indifférence face à une Afrique qui crève de la misère et du sida, plus pauvre aujourd'hui qu'il y a 20 ans. L'obscénité, ce sont toutes les minutes de silence que nous n'avons pas faites pour les victimes des Pinochet, des Videla, pour les Napalmés vietnamiens, pour tous ceux qui sont morts et meurent encore dans l'ombre, parce qu'ils n'ont pas la chance d'appartenir à notre monde. L'obscénité, c'est le rôle joué par les médias putes qui en remettent dans l'émotionnel et le spectaculaire pour faire monter l'audimat.
Ah, vous êtes en alerte, hein. Vous êtes en alerte, vous en ratez pas une, et c'est passionnant. Évidemment qu'on s'excuse auprès de ceux dont on ne diffuse pas les messages. Vous voyez surtout pas l'ombre d'une censure. On en reçoit vraiment beaucoup, des centaines de messages qu'on trie avec l'ami Christophe, et on essaye de faire entendre les messages qui nous semblent, dans le moment que nous vivons, le plus significatif, représentatif de ce que vous nous dites.
Pourquoi supprimer la base si j'y suis pendant cette période? C'est peut-être pas par hasard, c'est parce que quelque part ils ont c'est une émission qui n'est pas politiquement correcte, et donc ça serait mal perçu que pendant cette période là maintenant il faut prier avec le président George Bush, il faut être traumatisé. Bon, bien sûr c'est dramatique pour les innocents qui ont souffert et qui ont... Mais bon, c'est pas pour autant que... Justement, ça aurait été d'autant plus intéressant, par exemple, d'avoir quelqu'un du monde diplomatique, comme Ignacio Ramonet, par exemple, nous donner son approche, sa vision des choses, ou par exemple quelqu'un comme Philippe Val de Charlie Hebdo.
Bonjour, nous sommes 10h, nous sommes dimanche, pardon. Il est 16h passé, et au programme télé était prévue une émission sur Henri Curiel. Et je reconnais que je suis pas étonné, ça a été déprogrammé, sans explication évidemment. Donc Daniel Mermet, rappelez à vos auditeurs qui était Henri Curiel. Ils comprendront d'eux-mêmes pourquoi ça a été déprogrammé. À moins que Daniel Mermet s'en soit censuré lui aussi, quoi. Je me demande.
Alors Mermet, tu vas comprendre ton bâton de pèlerin? Qu'est-ce que tu vas faire, Mermet? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous faire une petite quinzaine, là, 15 jours, en direct d'une base militaire au Pakistan, pour nous montrer les B-52, le carrousel des B-52, des F-15, des F-16 qui décollent et qui atterrissent pour l'Afghanistan, et pour nous dire que la guerre est affreuse, que la guerre est bête, que ça ne profite qu'aux gouvernants et qu'aux états froids. Bon courage, Mermet, bon courage. Continue Sisyphe. Continue Sisyphe. Mais n'oublie pas, Sisyphe, que quand on aura porté la petite pierre en haut de la colline, elle redescendra en bas et tu devras la remonter en haut.
Séisme au sein des troupes américaines à l'étranger à la suite de l'explosion d'une bombe dans une caserne.
Une bombe a explosé dans une caserne américaine à Dharan en Arabie Saoudite.
Et les forces multinationales aidées par l'armée et la police.
Elle a déchiqueté les chambrées du 8e étage, prouvant ainsi l'extrême vulnérabilité des soldats qui...
Les marines qui y étaient stationnés ont été pétrifiés par l'horreur de ce spectacle.
Selon certaines indications, ce serait l'œuvre du cheikh Ahmed Ben Talal, un intégriste fondamentaliste extrémiste, connu pour avoir lancé une fatwa...
L'explosion semble être l'œuvre de terroristes. Et si tel est le cas, comme tout Américain, je suis consterné par l'événement.
Gilles, dans l'Hérault, éleveur de chèvres, penses-tu pas, Daniel, que l'énormité du drame que vivent les Américains est à peu près en proportion du mépris, de l'arrogance et de l'égoïsme qui montrent envers le reste du monde? Merci.
Les lâches qui ont commis ce monstrueux attentat n'échapperont pas au châtiment.
Sandrider, ici Eagle Mike. Nous avons ciblé l'objectif. Il est dans une Mercedes et il fait route vers le sud.
Communication vers le sud. 8 unités, voici ses coordonnées. 1, 8, 0, 5, 0.
Cible en approche de portée de tir. Point de contact dans approximativement 14 secondes.
Maintenant, en vidéo, pour votre plus grand plaisir.
Je répète avec force, l'Amérique veille sur les siens et les coupables n'échapperont pas au châtiment.
Nikolai, ici sans leader. Le chèque a été appréhendé. Il est en vie, il vous sera livré à 8h demain matin.
On continue avec les messages que vous avez laissés sur le répondeur de la Pacifique au 01 56 40 37 37. Très très nombreux messages. Encore quelques-uns.
Oui, bonjour. C'est Philippe d'Orléans. Je viens d'entendre à 8h28 sur France Inter un journaliste, je ne sais pas son nom, enfin un journaliste de France Inter, rendre responsable les mouvements anti-mondialisation des attentats sur New York. En particulier, il rend responsable les manifestants de Gênes qu'il accuse de naïveté, de récupération et d'être, en un mot, contre la mondialisation. Il dit que tout ça, c'est indirectement de leur faute. Alors bravo à ce journaliste très très pointu.
J'étais déjà ahuri de ce qui s'était passé, mais ce matin, je suis encore plus ahuri d'entendre tout ce qui s'est dit à la radio, qui nous parle des guerres, de la guerre de pays, soi-disant libre, je ne sais pas libre de quoi, pas de l'influence américaine en tout cas, contre qui est le terrorisme, qui est ce terrorisme, les pays musulmans. J'ai l'impression qu'ils profitent parce que nous sommes tous sous le choc de ces images pour nous faire rentrer dans une psychose de guerre. C'est incroyable, vraiment, il faut quand même que ça s'arrête. Je veux bien l'information, mais une information, je sais pas, qui nous rend calme et intelligent et pas... je suis encore époustouflée. Au revoir.
Voilà, je vous appelle, je regrette qu'il n'y a pas votre émission aujourd'hui, mais c'est par rapport de... événements en Amérique. Mais j'ai remarqué une chose qui est assez bizarre. Pendant le bombardement de la Yougoslavie, on utilisait le mot victime collatéraux. Ici, on parle de mort. Tu trouves pas ça un petit peu bizarre, Daniel? Et d'origine d'où je suis, il y a une proverbe qui dit, si tu sèmes les courges avec le diable, tu auras une récolte mauvaise. Alors, réfléchissons, n'est-ce pas, Daniel? Allez, les citoyens, bye.
كلها الليل
Merci à tous, auditeurs et auditrices. Ce soir, à ne pas manquer la soirée Théma sur Arte, une spéciale Théma Afghanistan, avec notamment le film de notre ami Christophe de Pompilly qui sera à 20h50. La soirée commence à 20h10. technique aujourd'hui, Michel Bertin et Julien Chabassus. Assistante, Joël Levert. Assistant, Antoine Dabrowski et Christophe Imbert. C'est lui qui a fait tout le boulot sur les répondeurs. Le répondeur de la basse justice, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao et Bruno Carpentier qui ont réalisé cette émission modeste et géniale grâce à vous. Il faut envoyer la réclame, désolé.